Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez technique, mais crucial pour l'IA. Entraîner les grands modèles de langage sur des textes vraiment très longs, c'est essentiel pour qu'ils puissent, par exemple, suivre un raisonnement complexe. Mais bon, ça pose un vrai problème de mémoire vive, un casse-tête. Alors, notre source principale, c'est un papier de recherche tout récent, déposé sur Archive début juin 2025 par Qijin Luo et son équipe. Il s'appelle StreamBP, Memory Efficient Exact Backpropagation for Long Sequence Training of LLMs. Le nœud du problème, c'est quoi? C'est cette fameuse rétropropagation, la backpropagation, ou BP. Pour entraîner le modèle, il faut garder plein de données intermédiaires, les activations, et même avec des astuces comme le gradient checkpointing, qui, bon, recalcule des choses pour économiser la mémoire, mais ça coûte en temps de calcul, bah, ça suffit plus quand les séquences deviennent vraiment, vraiment longues. La mémoire sature, alors comment on fait? L'article propose une solution, StreamPP. De quoi s'agit-il exactement?
Avec la méthode classique.
Mais surtout, elle est très économe en mémoire.
Exact et économe. Comment ça marche, en gros?
Ben, l'idée clé, elle est assez maligne. Au lieu de vouloir garder toutes les activations de toute la séquence en mémoire, ce qui est énorme, StreamBP décompose le calcul. Il le fait séquentiellement, couche par couche du modèle. C'est un peu comme si, pour analyser un très long film, au lieu de charger tout le film d'un coup dans la mémoire de l'ordi, tu traitais, disons, chapitre par chapitre. Tu analyses le premier, tu libères la mémoire, tu passes au suivant.
D'accord, je vois l'idée. On traite par petits bouts successifs.
C'est ça. Et la conséquence directe, ben, c'est une réduction drastique de la mémoire nécessaire pour stocker toutes ces activations et aussi les logits, les prédictions intermédiaires du modèle.
Bon, cette approche séquentielle, ça semble logique pour la mémoire. Mais est-ce que ça tient vraiment ses promesses en pratique? Parce que souvent, on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Quels sont les gains concrets qu'ils ont mesurés?
Alors, les bénéfices annoncés sont assez impressionnants, oui. Déjà, c'est compatible avec les méthodes d'entraînement qu'on utilise beaucoup en ce moment, comme le SFT, l'ajustement fin supervisé, ou le DPO pour aligner les modèles avec les préférences humaines.
Mmh.
Ensuite, et c'est un point vraiment important, ça demanderait moins d'opérations de calcul au total. Moins de flops, comme on dit. Moins de travail pour les processeurs, quoi.
Ah, moins de calculs. C'est contre-intuitif, non? Si on découpe.
Oui, mais en fait, la rétropropagation elle-même serait plus rapide parce que StreamBP tire parti de la structure des modèles transformeurs. Dans ces modèles, un élément dépend surtout de ce qu'il précède. C'est la structure causale. StreamBP exploite ça pour optimiser. Et si on compare directement au fameux gradient checkpointing, les chiffres sont assez parlants. Ils disent que StreamBP permettrait d'entraîner des modèles avec des séquences qui sont 2,8 à 5,5 fois plus longues.
5 fois plus longues? Waouh!
Oui. Et tout ça pour un temps de calcul de rétropropagation qui serait comparable, voire même inférieur dans certains cas.
Une capacité quasi multipliée par 5? Sans que ça prenne plus de temps? C'est quand même énorme comme affirmation. Est-ce qu'il y a un revers à la médaille? Des inconvénients, des cas où ça marche moins bien?
L'article met surtout l'accent sur les avantages, évidemment. Ils insistent sur le fait que c'est exact et que ça réduit les flops. Il n'y a pas de section dédiée aux inconvénients majeurs, mais il faut noter autre chose. Cette capacité à gérer des séquences plus longues, on peut aussi l'utiliser autrement. Si on a une mémoire donnée, au lieu d'allonger la séquence, on peut choisir d'augmenter la taille du lot, le batch size. Et ça, ça accélère l'entraînement global du modèle. C'est une autre façon de voir le gain.
D'accord, donc plus de flexibilité en fait. Soit des textes plus longs, soit un entraînement plus rapide.
C'est un peu l'idée. Et ils ajoutent aussi qu'ils ont développé une version distribuée de StreamBP. C'est important parce que les très gros modèles tournent sur plein de GPU en parallèle. Leur version est optimisée pour que ces GPU communiquent efficacement entre eux.
Et pour les équipes qui développent ces modèles, concrètement, c'est compliqué à intégrer dans leurs outils?
C'est un bon point. Ils soulignent que le code qu'ils proposent est conçu pour s'intégrer assez facilement dans les pipelines d'entraînement existants pour les modèles transformeurs.
Ah, ça, c'est clé pour l'adoption.
Exactement. Si c'est facile à tester et à déployer sans devoir tout réécrire, ça a beaucoup plus de chances d'être utilisé rapidement.
Donc si on essaie de résumer un peu, StreamBP, ça s'attaque à ce mur de la mémoire qui nous empêchait d'entraîner efficacement les IA sur des contextes très longs. Et c'est peut-être plus qu'une simple optimisation technique, ça pourrait vraiment débloquer de nouvelles capacités, non? Une IA qui pourrait lire l'intégralité d'un livre ou d'un dossier complexe et s'en souvenir pour répondre à une question.
Tout à fait, c'est le potentiel. Et ça amène à une réflexion un peu plus large, je trouve. On sait que les contraintes techniques, comme la mémoire ici, façonne énormément la manière dont on conçoit les modèles d'IA, leurs architectures même. Alors, si une méthode comme StreamBP arrive à desserrer cet étau de la mémoire, spécifiquement pour les longues séquences, comment est-ce que ça pourrait, à terme, transformer non seulement la taille des textes que les LLM peuvent traiter, mais peut-être aussi la nature de leurs architectures?
Et par extension, quel nouveau type de raisonnement ou de tâches cognitives un peu plus complexes on pourrait leur demander d'accomplir? Quelle porte ça ouvre si ce goulot d'étranglement de la mémoire se relâche vraiment? C'est une question intéressante pour l'avenir, je pense.